J'aimerais parler aujourd'hui sur Élisée et le miracle de l'huile. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1er, il est écrit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et ils lui présentaient des vases vides, lui présentèrent des vases. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Amen. » On connaît bien le prophète Élisée qui a reçu un appel de Dieu pour devenir prophète. Il a succédé notamment à Élie. Élie qui a pendant des années exercé son ministère, inspiré par le Saint-Esprit, donnant des paroles de Dieu, notamment en confrontant Akab et cette femme terrible, Jézabel, qui dominait sur le pays, qui poussait d'ailleurs les prophètes à se détourner de Dieu pour suivre Baal. Et Élisée, tout un temps au début de son ministère, il a été dans l'ombre d'Élie. En fait, il servait, la Bible dit qu'il servait Élie, tout simplement. On n'avait pas d'autres indications sur son activité. Il était comme en doublon, comme en... à côté de son maître Élie, il apprenait en fait, c'est une part de l'apprentissage même des disciples auprès de Jésus, ils apprenaient en observant, en regardant comment le maître faisait, c'était pareil pour Élisée, il avait vu par exemple Élie accomplir des miracles, et il s'attendait au Dieu du miracle, donc on voit que c'était une formation en fait pour le préparer à ce ministère de prophète. Et ici nous arrivons donc dans le ministère d'Élisée à ce miracle. C'est d'ailleurs le premier miracle d'Élisée, le miracle de l'huile. Le miracle, c'est un défi à la raison humaine, parce que dès que l'on parle de miracle, il y a toutes sortes de pensées qui nous viennent à l'esprit en nous disant « mais ce n'est pas possible ». Effectivement, le miracle, c'est tout ce que la science ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement naturel. Il y a ici, dans ce miracle, une huile qui va se... multiplier par exemple, qui va donc se développer toute seule, sans aucune explication rationnelle. Alors quand vous expliquez, quand vous parlez de miracle, eh bien il y a des gens qui vont vous dire « mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas ». Oui, dans le monde naturel ça n'est pas possible, mais dans le monde spirituel c'est un autre monde. Il y a d'autres lois dans le monde spirituel. Par exemple, Jésus a dit « tout est possible à celui qui croit ». On sait très bien que dans le monde naturel, ça n'est pas possible. Il y a plein de choses qui ne sont pas possibles. Mais Jésus explique que dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel, dans le monde de la foi, c'est d'autres lois. Ce ne sont pas les lois naturelles, ce sont les lois spirituelles. Dans les lois terrestres, nous avons la gravitation, par exemple. La loi de la gravité qui nous ramène toujours vers le bas. Mais dans le monde spirituel, Jésus est capable de marcher sur l'eau. Il confronte les lois naturelles par des lois qui sont autres, qui sont du royaume de Dieu, qui sont les lois spirituelles, qui sont les lois du miracle, qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent différemment par rapport à nos lois. Alors pour vous parler de ce miracle d'Élisée, je vois d'abord, premier point, c'est l'épreuve par laquelle cette femme passe. Mais remarquez que cette femme, c'est une croyante. Ce n'est pas une femme qui ne connaît pas Dieu, elle dit même que son mari était prophète, mais il est décédé. Et ça nous interroge sur l'adversité qui frappe même les croyants. Vous voyez, c'était un couple de croyants et le mari a été frappé. On ne sait si c'est la maladie ou si c'est un accident. Il est mort. Il est mort brutalement mais même laissant sa femme et un enfant, et des enfants même. Il a été repris par le Seigneur. La Bible dit qu'il craignait l'Éternel. Oui, l'adversité frappe les croyants comme les non-croyants. Et c'est pourquoi nous devons être toujours prêts. Car même si nous sommes croyants, nous n'avons pas une garantie de vie infinie sur cette terre. Un jour ou l'autre, le Seigneur nous reprendra. Et ça peut être plus tôt que ce que nous, on aurait pensé ou espéré. En tout cas, c'est Dieu qui décide de notre départ. Aujourd'hui, on entend plus en plus de gens qui revendiquent à choisir le jour de leur mort, par exemple. Ce sont des débats de société actuelle. De sorte que dans certains pays, je pense à la Suisse, eh bien, vous avez le droit de décider d'en finir. D'en finir, même si vous êtes jeune. Hein. Même si vous êtes jeune, c'est assez ahurissant, mais ça s'appelle le suicide assisté. Le suicide assisté qui est légal dans certains pays. Il y en a qui voyagent d'Australie, car dans la plupart des pays du monde, c'est illégal. Mais comme c'est légal dans ce pays, alors ils vont s'inscrire. Et voilà, ils décident du jour de leur mort. Le principe, c'est qu'il faut être conscient, il faut être d'accord, il faut être, vous signez, et après on vous injecte un produit et c'est terminé. Voilà le monde dans lequel nous vivons, un monde qui ne comprend pas la valeur de la vie, et que c'est pas nous qui devons décider le jour de notre mort, mais c'est Dieu qui nous reprend quand le nombre de nos jours est achevé. Mais la différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est la manière dont nous allons traverser l'adversité. Car nous, chrétiens, nous avons la foi que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais remarquez le non-croyant. Lui, il voit les événements qui lui tombent dessus, la perte d'un proche, un accident, et il peut en vouloir au sort, ou plutôt à son destin, de lui avoir fait subir toutes ces choses, parce qu'il ne comprend pas que derrière, il y a Dieu qui dirige tout. Et donc, il y a une forme de révolte et d'incompréhension qui surgit face à l'adversité. Voilà pour le non-croyant. Tandis que le chrétien, même s'il pleure, même s'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il se tourne vers Dieu et il dit, « Seigneur, comme Job a dit, Seigneur, tu as donné, l'Éternel tu as repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il y a dans le cœur du croyant donc une espérance qui dépasse l'intelligence purement terrestre, mais nous parlons d'intelligence spirituelle que Dieu donne. Alors elle va crier à Élisée, elle est dans le désespoir, on peut la comprendre, puisque à l'époque, faut-il le rappeler, il n'y avait aucune aide. En fait, quand le mari mourait, il n'y avait plus de revenus du tout, du jour au lendemain, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'aide financière quelconque, c'était comme du jour au lendemain où s'il n'y a plus du tout d'argent. Et bien que les dettes continuent, puisqu'ils avaient manifestement des dettes peut-être à l'achat d'une maison, il y avait donc des remboursements à faire et elle ne pouvait plus payer. Et donc les créanciers sont venus pour récupérer les enfants pour les vendre. Mais cette femme passe par cette épreuve, elle crie, alors quelle est son attitude? Elle va crier, c'est-à-dire implorer, appeler au secours, c'est-à-dire supplier Élisée de faire quelque chose, de prier Dieu en sa faveur pour que l'Éternel fasse grâce. Eh bien, de quoi avons-nous le plus besoin quand on est dans la détresse? On a besoin d'un secours. Et c'est écrit au psaume 46 et au verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Elle l'a expérimenté, nous pouvons l'expérimenter si nous avons cette foi, cette confiance en Dieu. Remarquez que chez cette femme, il n'y a pas qu'une épreuve qui lui tombe dessus, mais une accumulation de plusieurs épreuves. La première, on l'a cité, c'est la mort de son mari. Elle se retrouve donc du jour au lendemain dans une situation précaire, sans avoir les moyens de payer les remboursements de dettes. La deuxième problématique, ce sont les dettes qui pèsent sur son épaule maintenant, puisque son mari est mort, et elle ne peut pas les régler. Et le troisième problème qui vient se greffer, c'est que les huissiers sont venus pour récupérer ses enfants, pour les vendre, afin que la vente de ses enfants comme esclaves rapporte une partie de ce qu'elle doit, mais ça ne suffira même pas pour payer toutes ses dettes. Alors, on voit que cette femme, en fait, elle est dans une accumulation de problèmes. Et c'est généralement notre cas. Nous n'avons pas qu'un seul problème auquel nous devons faire face, mais nous avons souvent un problème qui en amène un autre, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Et c'est un enchaînement, si bien que le poids étant trop lourd, qu'est-ce qui se passe généralement? Eh bien, on coule sous le poids des problèmes et c'est une sorte de... On se laisse couler, on s'effondre sous le poids des problèmes parce qu'il n'y a aucune issue. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, ses amis ne peuvent pas l'aider, alors elle crie au prophète pour que Dieu intervienne. Et Dieu permet parfois des situations extrêmes. Je pense à Abraham dont il est dit, Genèse 22, verset 1, « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Et Dieu peut décider de nous mettre à l'épreuve aussi un jour. Et pourquoi il le met à l'épreuve? C'était pour vérifier la solidité de sa foi. Alors Dieu lui dit, « Donne-moi ton fils Isaac, ton fils unique, et offre-le-moi en holocauste sur le mont que je te montrerai. » Quand il entend cette parole, ça c'est une épreuve vraiment très très difficile à accepter parce que il a attendu plus que 25 ans la réalisation de la promesse de cette venue de cet enfant. Isaac, maintenant on estime qu'il est adolescent maintenant, il va tout perdre du jour au lendemain et voilà, c'est une épreuve quand même difficile à accepter, il ne l'a pas choisie. La plupart des épreuves, toujours les épreuves que nous traversons d'ailleurs, nous ne les choisissons jamais, elles nous tombent dessus. Et sa foi va donc être exercée jusqu'à temps qu'il attache Isaac sur l'autel, qu'il lève le couteau pour l'égorger. Un texte du Nouveau Testament dans Hébreux dit qu'il avait cette foi en Dieu, il croyait que Dieu était puissant pour même ressusciter Isaac d'entre les morts s'il devait le tuer. Mais par la grâce de Dieu, un ange a arrêté bien sûr le couteau afin qu'il ne fasse pas de mal à son fils. C'était une épreuve. Dieu savait l'issue, Abraham ne savait pas. Abraham était prêt à l'égorger à ce moment-là, l'offrir en sacrifice. Et Dieu avait déjà prévu le bélier. Abraham ne le voyait pas encore avec ses yeux. Et souvent c'est comme ça, nous ne voyons pas la solution. Mais la solution, elle était déjà là en réalité. Parce que le bélier, il n'est pas apparu comme ça d'un coup de baguette magique. Le bélier, il était préparé ici, en fait, il était prédestiné, ce bélier, à être offert en sacrifice. Donc il était coincé dans un endroit. Et au moment où l'ange dit « arrête, arrête », c'est là que les yeux d'Abraham vont s'ouvrir et ils vont voir la solution. Ah, mais c'est le bélier qu'il va falloir offrir à la place d'Isaac. La solution, elle est souvent à côté de nous, mais nous ne pouvons pas la voir encore avec nos yeux qui sont fermés. Alors, que le Seigneur nous fasse grâce. C'est Dieu qui a sorti Abraham de cette épreuve. Il lui a ouvert les yeux et la solution est arrivée. Alors la foi, voilà, c'est ça. Elle ne va pas s'exercer dans le vide, mais elle s'exerce dans l'épreuve. Regardez les trois Hébreux, par exemple, on les a obligés à adorer la statue. Ils ont refusé. C'était Shadrach, Meshach et Abednego, du temps de Daniel, dans le prophète Daniel. Ils ont refusé et ils croyaient que Dieu était assez puissant, mais ils disaient, Dieu peut nous sauver de la fournaise ardente, mais il nous délivrera de ta main au roi. Ils ont une parole de foi. Après, ils savent que Dieu peut le faire, ils ne savent pas si Dieu va le faire exactement, mais en tout cas, ils sont prêts à faire la volonté de Dieu. Mais ils ont dû croire, même en étant jetés dans la fournaise, et c'est seulement dans la fournaise que le quatrième, qui ressemblait à un ange, est venu. C'est une préfiguration de Christ qui vient au secours de ses enfants. Et à ce moment-là, ils ont été gardés dans le feu. Mais quand même, il fallait croire dans le feu. Le même cas pour Daniel, il a dû croire dans la fosse aux lions. Évidemment, c'est facile de croire quand on est dans l'église. C'est facile de croire quand on est dans un groupe de prière. Allez, on croit, on met notre foi en action, oui. Mais quand on est au cœur de l'adversité, est-ce qu'on va croire de la même manière? Voilà, c'est là qu'en fait notre foi est éprouvée. Notre foi est testée. Tu dis que tu crois, est-ce que tu vas croire aussi quand tu n'as plus l'argent, quand tu n'arrives pas à payer tes dettes, quand il y a une panne de voiture, quand il n'y a plus dans le frigo, quand il y a un ami qui t'a tourné le dos, etc. Est-ce que tu vas croire encore dans ces contextes-là? Eh oui. C'est là qu'on voit la foi. David, pareil, facile de croire. Quand, par exemple, il est oint par Samuel pour être le roi, ben là, il peut croire de tout son cœur. Mais quand il est devant Goliath, c'est là qu'il faut croire. Quand il est devant ce géant et que lui, à côté, il ne fait pas le poids. il va certainement, même le roi Saül pensait qu'il allait même mourir, tellement c'était pas facile pour David. Mais lui, il croit, il dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Il est donc dans la foi dans un moment critique, dans un moment où il peut même perdre la vie. C'est là que nous voyons la foi, frères et sœurs. C'est pas simplement dans les moments où tout va bien, mais c'est dans les moments d'épreuve, la fournaise, la fosse aux lions, face aux géants. Il y a Pierre qui dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la gloire, la louange et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà à quoi va être éprouvée la foi. Elle va passer par le feu, un petit peu comme l'or est éprouvé par le feu pour en dégager les scories, et ainsi notre foi éprouvée va servir à quelque chose de positif, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus reviendra. Voilà, nous sommes testés. De même qu'avant d'envoyer un navire en mer, il est testé, éprouvé, la solidité, et ensuite on l'envoie en mer, de même la foi est éprouvée pour voir si elle est solide. C'est Dieu qui le fait. L'épreuve ne dure pas toujours. Il faut nous rappeler que, comme pour Abraham, il a été éprouvé un temps. Cette femme, ici, d'entre les prophètes, a aussi été éprouvée. Elle a perdu son mari. Elle a été éprouvée un temps. Mais l'épreuve ne dure pas toute la vie. C'est un passage. Et ça, il faut nous rappeler parce que il y a un verset qui dit, et c'est un verset que j'ai beaucoup médité pendant que Laurence, mon épouse, a été malade pendant ces 3 ans. C'est que ce verset qui dit que le Seigneur ne vous tentera pas au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il permettra aussi, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir. Et donc il y a cette réalité que l'épreuve est là, mais il y a aussi le moyen d'en sortir. Et il ne faut pas regarder que l'épreuve. Il ne faut pas regarder que les difficultés. Il faut aussi regarder que Dieu a permis, il y a un moyen par lequel on va sortir de là. On ne le voit peut-être pas encore, mais il est quelque part. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment il va faire, mais en tout cas, il n'ira pas au-delà de nos forces. Donc, si on est encore là, c'est qu'on a encore de la force. Et ça, on le voit aussi, on n'imagine pas la force qu'on a, mais dans l'épreuve, eh bien, on la mesure. Dieu nous demande juste de lui faire confiance. Un jour, Jésus est supplié par un homme qui s'appelle Jaïrus, qui lui demande de venir vite, vite à la maison parce que sa fille est sur le point de mourir. Quand c'est une situation urgente, eh bien, il faut y aller tout de suite. Mais voilà qu'une femme malade depuis 12 ans, perte de sang, va ralentir Jésus dans sa marche, il va prendre du temps pour elle. Entre-temps, la jeune fille est morte. Et les gens qui arrivent de la maison de la fille de Jaïrus disent « Ce n'est plus la peine d'importuner le maître, ta fille est morte. » Ça veut dire « C'est fini, c'est pas la peine que Jésus vienne. » Regardez l'attitude de Jésus, Marc 5, 36. « Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Ça, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire que quand il n'y a plus d'espoir, il y a encore de l'espoir. En tout cas, pour les gens de la maison de Jaïrus, il n'y avait plus d'espoir. C'était fini. Mais pour Jésus, ce n'est pas fini. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous parlais des lois naturelles et des lois spirituelles. Les gens de la maison de Jaïrus, ils sont dans les lois naturelles. Ta fille est morte, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, tu peux rentrer à la maison, il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus, il est dans les lois spirituelles. Tout est possible à celui qui croit. Et il est capable de dire, ne crains point, crois seulement. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ça, c'est un autre domaine. On est dans le terrain du miracle où Jésus se maintient en permanence. Et effectivement, quand il arrive, alors qu'elle est morte, il dit, non, elle dort seulement. Alors les gens se moquent de lui, il fait sortir la foule, et il va prier là avec Pierre, Jacques, Jean, les parents, et la fille va revenir à la vie. Ça, c'est le miracle que Dieu accompli, mais c'est pas facile de faire confiance quand tout va mal. Hein? C'est plus facile de faire confiance quand tout va bien. Quand les choses se passent comme on a prévu, quand on a les finances qu'il faut, on a le travail, tout se passe bien à la maison, il n'y a pas de problème, alors là, la confiance, elle est naturelle. Mais si on est malade, hein, si, voilà, diagnostic cancer, Est-ce qu'on va maintenir la confiance? Eh oui. La confiance, c'est dans l'épreuve, c'est dans la maladie. Et on fait confiance. On fait confiance à Dieu, même quand tout nous semble perdu. C'est ça le chrétien, en fait. Parce que nous ne sommes pas sur les lois terrestres, parce que nous, nous avons un autre, diagnostic. Hein. Merci Seigneur pour les diagnostics des médecins, gloire à Dieu, ben, ils constatent les choses, mais nous, nous avons les diagnostics de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut regarder toujours. La parole de Dieu nous enseigne que c'est Dieu, par exemple, au psaume 103, il est dit qu'il te délivre de tout, il pardonne tous tes péchés et il guérit toutes tes maladies. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce diagnostic-là que nous regardons. Il est tout puissant. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté, eh bien, moi, je veux m'attendre à ta grâce. Alors, si jamais on a été déçu parce qu'on a fait confiance à quelqu'un, et puis cette personne vous a trompé, elle est allée avec une autre personne, ou elle vous a menti, eh bien, lui, en tout cas, Dieu ne ment jamais, et il ne trompe pas. Il est fidèle, ses paroles sont certaines. Et j'aimerais rajouter qu'il n'est jamais en retard. Jésus n'est pas arrivé en retard chez cette fille qui était morte. Jésus n'est pas arrivé en retard quand Lazare était mort, car il sait ce qu'il fait. Et s'il arrive plus tard que ce qu'on pense, c'est parce que derrière, il y a un miracle plus important ou différent de celui auquel on avait pensé. Parce que les sœurs de Lazare, ils le faisaient venir pour une guérison, mais Jésus, il était venu pour une résurrection. Donc, quelquefois, nous, on veut pour une guérison, mais Jésus, il vient pour une résurrection. Il vient pour quelque chose d'autre. Et malheureusement, nous ne comprenons pas ça. Nous ne sommes pas dans la logique de Dieu. Et nous disons, mais il est arrivé trop tard. Ou alors, il n'est jamais venu. Ou alors, ce n'est plus la peine. Non, frères et sœurs. Nous sommes dans la foi. Et nous maintenons que ce que Jésus fait, il le fait bien. Il y a ce verset du psaume 37, verset 5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. » Ça, c'est notre part. « Mettons notre confiance en Dieu. » Et la fin dit « Et il agira. » Ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est le miracle. Ça, c'est la résurrection d'un enfant mort. C'est ici le miracle de l'huile qui va se multiplier. « Il agira, ça ne nous appartient plus. » Mais néanmoins, la première partie, « Recommande ton sort et mets ta confiance, ça nous appartient. » Le deuxième élément, c'est le peu d'huile qu'il y a. Et on voit qu'avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Car Dieu utilise nos faibles moyens pour faire de grandes choses. On le voit très bien avec cet enfant qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Même les disciples disent « Mais qu'est-ce que cela pour une si grande foule ?» Ils ne croient même pas qu'avec ça, on peut faire quelque chose. Mais Jésus, quand il voit les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Dieu est capable de multiplier, si on lui fait confiance, ces 5 pains et ces 2 poissons. C'est pourquoi il va prier et il y aura le miracle de la multiplication. C'est pareil ici, c'est un peu le miracle de la multiplication de l'huile. Cette femme dit « Mais moi, je n'ai rien du tout à la maison, juste un tout petit peu d'huile. » Mais sous-entendu, mais qu'est-ce que c'est que ce peu d'huile? Pour ma situation, il n'y aura pas d'issue. Cette huile, en fait, c'est le point de départ du miracle. En fait, c'est ce qui est méprisé, ignoré, mis de côté, qui va être le point névralgique par lequel le miracle va prendre place. En fait, on pourrait dire sans Dieu, ce n'est qu'un petit vase sans importance. Mais avec Dieu, ce petit vase deviendra une source d'huile abondante. Voilà comment nous devons voir cette huile. Elle ne le saisit pas encore, cette femme. Elle n'a pas encore toutes les données du miracle en elle, mais simplement, elle va devoir faire une démarche de foi. Dieu, en fait, n'a même pas besoin d'une petite quantité d'huile. À la limite, il pourrait, à partir du néant, faire surgir de l'huile. Mais il aime utiliser les petites choses que nous avons, comme cette femme qui va déposer ses 2 petites pièces. Jésus regarde les gens qui mettent au tronc. La femme, elle vient mettre ses 2 petites pièces. Ce sont des petites choses. En réalité, c'était beaucoup pour elle. Mais en réalité, avec ces choses-là, Dieu va faire des grandes choses. Dieu est créateur. Alors pour lui, voyez, il n'y a pas de souci. Regardez comment Jésus, par exemple, lors du mariage, il dit à ses gens, remplissez d'eau ces jarres. Il y avait 600 litres là. 600 litres d'eau et instantanément, l'eau va être transformée en vin par l'action puissante de Jésus. Mais il part de l'eau quand même. Il part de l'eau qui est un matériau assez simple, assez commun, on le trouve partout. Mais pour le transformer en vin d'une grande qualité, qui est d'une très bonne saveur. Et puis, la farine et l'huile qui se multiplient aussi du temps d'Élie pour cette femme qui va faire un gâteau pour Élie. Donc on voit que Dieu multiplie les petites quantités. On ne peut pas imaginer toujours ce que Dieu va faire avec nos faibles moyens. Pourquoi ? Parce que nos yeux sont très limités. Nous avons une vision très limitée. Un jour, un ami m'expliquait qu'il avait acheté deux mini-tortues. Et pour qu'elles soient très à l'aise, il leur avait construit un immense bac avec une bordure en verre comme ça, tout autour du bac. Et proportionnellement à leur taille, c'était un véritable... c'était un terrain gigantesque parce qu'elles étaient minus là dans ce grand bac. Mais il m'a expliqué, la plupart du temps, en fait, pratiquement toute la journée, elles se collaient dans un angle du bac et toute la journée, elles restaient collées là, dans l'angle du bac. Alors il les remettait au milieu pour qu'elles profitent de ce... Il avait même aménagé une petite mare, des endroits chouettes pour les tortues. Rien à faire. Elles revenaient toujours dans leur angle et elles restaient coincées sur l'angle du... toute la journée. Et ça me fait penser un peu à notre vision à nous. Dieu nous a donné toutes ces merveilles, ces possibilités, mais nous sommes tellement obtus que nous allons toujours regarder dans la même direction. Notre vision n'est pas ouverte, elle est souvent bloquée. Et ça, il faut que le Seigneur nous en délivre, hein, parce qu'il a créé pour nous toutes ces grâces, toutes ces bénédictions autour de nous, et nous ne les voyons même pas. Souvent, Dieu agit, nous ne le voyons même pas. Nous ne lui rendons même pas gloire pour sa présence, pour sa grâce. Alors, le troisième élément de ce texte, c'est les vases vides. Car Dieu va tester la foi de cette femme en disant, tu vas chercher des vases. Et le prophète lui dit, tu vas chercher un grand nombre de vases. Mais elle ne lui dit pas combien. Le prophète ne lui dit pas, tu vas chercher par exemple 50 vases. C'était à elle de déterminer le nombre de vases. Et ça, c'est quoi ça? C'est la foi qu'elle va avoir pour ramener ses vases. Parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas l'huile qui coule encore. Il n'y a pas l'abondance encore. Donc si elle décide d'en ramener 10, elle en aura pour 10. Si elle décide d'en ramener 50, elle en aura pour 50. Si elle décide d'en ramener 100, elle en aura pour 100. Sauf qu'elle n'a pas cette indication que je vous donne. Elle a juste l'indication, ramène le plus de vases que tu peux. Et donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va en ramener un grand nombre. Et en fait, c'est elle qui va déterminer par sa foi, par sa confiance... Eh bien, je pense que là, il y en a assez, mais si elle en avait pris 10 de plus, il y en aurait eu pour 10 de plus. C'est donc elle qui va être la mesure de sa propre bénédiction. Il fallait en prendre beaucoup, en tout cas. Hein, si elle en avait pris 3 ou 4, par exemple, elle n'aurait eu que 3 ou 4 vases remplis. Donc, elle a bien fait d'en prendre beaucoup. Donc, à un moment donné... Élisée se détache pour montrer que ce n'est pas lui qui fait le miracle. Il dit, tu vas prendre ces vases, tu rentreras chez toi et tu fermeras la porte sur toi. Ça veut dire que Élisée n'est pour rien dans ce miracle. Mais c'est entre elle et Dieu. Et Dieu a rempli autant de vases que la foi de cette femme a eu pour en demander autour d'elle. La provision du côté de Dieu, on pourrait dire, elle est infinie. Dieu pouvait pourvoir pour 100 vases, comme pour 50 vases, comme pour 10 vases. Mais de notre côté, souvent nous limitons la puissance de Dieu. Mais il y a un verset qui nous dit, Éphésiens 3:20, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça c'est la provision de Dieu qui est infinie. Et Paul utilise le verbe infiniment au-delà. Ça veut dire, du côté de Dieu, il n'y a pas de limite. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ et dans toutes les générations au siècle des siècles. Tant qu'il y avait des vases vides, en fait, Dieu les remplissait jusqu'au dernier. Et si Dieu a rempli ces vases vides, bien, il veut le faire aussi pour nous. Parce que nous sommes comme des vases vides et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, nous aussi. Être remplis de sa présence. Eh bien, venons avec Dieu comme nous sommes et laissons-nous constamment remplir. Il y a un verset qui dit... Soyez remplis du Saint-Esprit. En réalité, si on le traduisait dans le grec, ça dirait « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit » parce que c'est un impératif présent en grec qui signifie une continuité. Et nous avons besoin d'être remplis parce que nous nous vidons aussi et nous avons toujours besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Alors, la conclusion, bien, nous sommes... la somme récoltée par la vente de cette huile, donc qu'elle a pu avoir va permettre de payer toutes ses dettes et de récupérer ses enfants. Et non seulement elle va payer toutes ses dettes, mais par la grâce de Dieu, elle va avoir aussi de l'argent, de l'avance pour pouvoir vivre sa vie. La Bible dit au psaume 34, verset 11, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Psaume 34, 11. Et nous savons que Dieu veille sur nous. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta grâce, ta présence, ta parole qui nous rappelle que nous sommes tes enfants, les bien-aimés du Père, et que tu as encore des projets pour chacune de nos vies. Merci pour ce miracle puissant que tu as réalisé pour cette femme désespérée. Et nous croyons que même quand bien même l'adversité frappe aujourd'hui des croyants, eh bien que tu as aussi la solution pour en sortir, que tu as les moyens pour pourvoir pour les miracles, pour agir d'une manière parfaite, Seigneur, pour changer le mal en bien et pour être des témoins pour ta gloire. Oui, Seigneur, bénis et encourage chacun en ce jour et garde-nous dans ta paix le reste de cette journée. Et dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Amen.